Alors, on est au cœur d'une retraite de méditation classique. Là. On a cette chance-là, nous. Je ne sais pas si ça vous apparaît comme ça ce matin. Une chance incroyable d'avoir des gens qui cuisinent pour nous, d'être en nature, dans un lieu où... Il n'y a pas 100 000 personnes qui attendent des affaires de nous. Là, puis on peut faire cette exploration, cette étude de la nature humaine. C'est un travail extrêmement délicat. Une façon de parler de ce qu'on fait, ce serait de dire que pendant qu'on est ici ce week-end, on voudrait arriver à ne rien faire de façon habituelle. De faire chaque chose qu'on fait de façon consciente, incluant les pensées. Hein? Alors, ça pourrait peut-être décrire un être éveillé, un être qui est pleinement conscient de ce par quoi il est mu, de ce qu'il ou ce qu'elle est en train de faire, etc. Puis le Bouddha, dans ses instructions, décrit ça, invite ça. Il dit, quand elle tourne la tête, elle sait qu'elle tourne la tête. Juste genre, ah, c'est qui marche là-bas? Quand il déplie le bras, il sait qu'il déplie le bras. Pas juste genre, il reste-tu des boules d'énergie? Donc, conscient, là, pas habituel, compulsif, conscient de ce qui naît en soi. Les instructions là, que le Bouddha a données touchent à tout. Là. Ils touchent à uriner, déféquer. Il n'y a rien qu'il trouvait qui valait pas la peine qu'on soit présent. Là. Il y a autant d'opportunités de présence, une présence posée, ou curieuse, ou généreuse, ou aimante. Hein. Donc, pas une attention habituelle, superficielle, à moitié là. Alors, c'est vers ça qu'on se dirige. Puis, il donne des instructions autour de l'effort juste. Hein. Ce matin, je veux parler entre autres, de deux sortes d'efforts justes. Il y a un effort juste, ben, c'est une sorte en fait. L'effort juste qui est décrit... À un moment donné, il y a un échange avec des gens, puis il dit quelque chose comme, je paraphrase toujours un peu, là, mais l'essence est là. Il dit, vous vous demandez comment j'ai fait pour traverser les flots. Tu sais, les flots des pensées, des émotions, des attentes déçues, des projections qui ne se passent pas comme projetées. Le flot des situations sociales, de la solitude, le flot de la beauté qui disparaît, remplacée par le déplaisant, le flot, en tout cas, on reconnaît là, un peu. Comment j'ai fait pour traverser les flots? Alors, sans forcer et sans abandonner. Alors ça, on peut le prendre vraiment comme une instruction sur comment pratiquer. Sans forcer, sans abandonner. Ce qu'on appelle la voie du milieu, entre les extrêmes. Forcer ou juste être habituel, compulsif, etc. Là, nous, on vise cette petite ligne du milieu là, qui est assez mince, finalement, d'être éveillé à ce qui se passe. Éveillé à ce qui se passe. Puis là, on l'a vu, éveillé à ce qui se passe, c'est quoi? C'est les sens. Ça a été présenté à travers les 5 et 6 sens. Là. Alors, éveillé à ce qui se porte à la porte des sens. D'autres façons d'en parler, ce serait de dire, parler de l'attention au corps dans sa posture. Quelqu'un à la retraite la semaine dernière, près de Rimouski, disait, moi, ça me... quand tu as dit ça, là, ça vient du Bouddha, mais quand tu as dit ça, ça m'a tellement... Ça m'a, tout, à la fin de la fin de semaine, la personne disait, moi, là, ça a été la seule instruction que j'ai comme appliquée puis qui m'a touché profondément. Puis c'était le Bouddha qui disait, quand tu es assis, sache que tu es assis. Quand tu marches, sache que tu marches. Alors, c'est l'attention au corps dans sa posture, extrêmement primaire. Hein? Nous, on projette, mais plus tard, puis ça, puis comment je vais intégrer ça à la maison? Es-tu debout ou tu es assise? Le sais-tu? Peux-tu demeurer conscient, consciente de ça? Alors, l'attention à la posture, pas dans le but de l'améliorer. Hein? L'attention à la respiration. Je vous donne des objets possibles de choses qui se passent dans la réalité. L'attention à la respiration, pas dans le but de la contrôler ou de l'améliorer non plus. Ici, ce n'est pas ce qu'on fait. On ne fait pas des pranayamas, on ne fait pas des exercices de respiration. On laisse la respiration telle qu'elle est, puis on découvre, on s'en sert pour développer de la présence. Puis faire plein de découvertes, là, découvrir la nature passante des choses. Hein, les respirations passent. Mais aussi, c'est un accès, c'est un portail, parce que étant attentif au corps, sachant que le corps est assis, je risque de découvrir qu'il est non seulement assis, mais aussi sensible. Hein. Étant attentif à la respiration, je vais découvrir que oui, le ventre se gonfle et se dégonfle, mais aussi une qualité d'attention qui fluctue. Des fois, c'est intéressé, des fois, oups, ça part, ça revient. Alors, je vais découvrir plein de choses sur le système en entier. Alors, les instructions, c'est la posture, la respiration, les activités du corps. Donc, quand il déplie le bras, il sait qu'il déplie le bras. Quand elle chausse ses Birkenstock, elle sait qu'elle chausse ses Birkenstock. Descendant l'escalier, on est conscient de descendre l'escalier. Incroyablement simple, hein? Simple, on pourrait presque dire élégant, c'est gracieux. Là, tu sais. C'est très, 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 très simple. Puis c'est ce qu'on essaie d'appliquer aujourd'hui. Alors là-dedans, c'est ça, posture, respiration, activité du corps. Il y a les sens, on en a parlé amplement. Il y a aussi les états mentaux. Hein. Ça aussi, on en a parlé comme le sixième sens, là où il y a des qualités dans l'esprit. Des fois, des qualités qui durent... Je vais le définir comme ça, là. Certaines qualités qui durent pendant un moment, qu'on pourrait définir comme humeur, là, tu sais. De mauvaise humeur, de bonne humeur, de mauvaise foi, tu sais. Ça cherche le trouble, là. C'est ainsi, puis ça cherche là. Alors ça, puis des émotions aussi qui sont plus peut-être des vagues. Ah, grosse vague de doute, grosse vague de... deuil, sentiment de deuil, de solitude, de honte, de joie, de calme, de gratitude. Alors, il y a ces passages-là qui ont lieu. Les instructions du Bouddha, extrêmement simples. Hein? Alors, dans une autre approche, on pourrait dire, ah, il y a une émotion, pourquoi l'émotion est là, ça vient d'où dans l'enfance, etc. On pourrait le faire avec un professionnel, tu sais. Très important, très bon, très, très belle recherche, on pourrait dire. Ici, la technique, elle est autre. Hein? Ici, la technique, c'est au moment où il y a une émotion, sache qu'il y a une émotion. Les instructions du Bouddha, c'est ça. Quand l'esprit est concentré, sache qu'il est concentré. Donc, devenir sensible à cette expérience-là qui est en opération, là, qui est vivante en ce moment, dans le moment présent. Quand l'esprit est éparpillé, sache qu'il est éparpillé. Il ne dit pas, quand l'esprit est éparpillé, ah ben non, là, ça ne marche pas, là. Ramasse-toi. Il ne dit pas ça. Il parle juste de conscience, hein? Devenir conscient du phénomène pendant qu'il a lieu. Alors nous, souvent, on est fascinés par les émotions qui ont eu lieu. Ah! Quand il m'a dit ça, quand elle m'a dit ça. Ah! Ou les émotions qui pourraient avoir lieu. Ah, s'il arrivait telle affaire, je me demande comment je me sentirais de même. Donc, on peut être fasciné, passer des heures à proliférer autour de ça. Ici, c'est très simple. On s'occupe seulement de celles qui sont présentes. On devient conscient. Donc, ce qu'on peut faire pour s'aider, c'est peut-être nommer l'état mental, la qualité qui est là. On en parlait dans un des petits groupes hier, la note mentale qu'on peut prendre, c'est un petit peu comme un cadre autour d'une image, d'une œuvre d'art ou d'une photo qui nous invite à voir. T'sais. Alors, étant assis ici comme ça, je pourrais dire ennui, ennui mortel. Puis là, je suis invité à le ressentir, mourir d'ennui. Je blague un peu. Ennui. Ou tiens, ah, passage de joie. Joie. Wow, ça. Blip, burp, dans l'esprit. Ouh, joie. Ah, regarde ça. Puis je deviens conscient de ça, cet événement-là, quand il a lieu. Alors, nous, ce qu'on fait souvent, les êtres humains, aussi, ça va être de. L'émotion va venir avec des images. Puis là, on va venir fasciné par l'histoire. Hein. Dans le ressentiment, on va être dans l'histoire de telle affaire, dans la crainte, on va être dans l'histoire de comment ça pourrait tourner. Et ici, ce qu'on fait, c'est qu'on ne donne pas tellement de valeur à l'histoire. On donne de la valeur au ressenti, encore une fois. Alors, si je me trouve dans une émotion quelconque, ce que je vais faire, c'est que je vais devenir consciente, prise de conscience. Je prends conscience, ah tiens, là, il y a cette coloration-là, cette texture-là dans le paysage intérieur, on pourrait dire. Laisse-moi devenir sensible à ça, me conscientiser. Ah, c'est comme ça en ce moment. Ah, c'est léger. Léger, c'est le même. Ah, lourd, brisé, vide. Je sais pas, là, toutes la panoplie de possibilités, c'est large. Alors, là-dedans, on sent bien là, qu'il n'y a aucun jugement. Il n'y a pas de jugement, puis il n'y a pas d'exigence. On ne cherche pas à obtenir quelque chose. C'est la pleine conscience, quand elle se raffine, là, elle ne porte pas attention dans le but d'obtenir quelque chose. Elle porte attention parce que la chose existe. Puis donc, mérite qu'elle soit connue, comme elle est venue en existence. Il y a quelque chose de vivant là, qui mérite qu'on s'y attarde. Même si ce n'est pas ce qu'on aurait choisi, préféré, voudrait, il y a quelque chose qui est là. Le silence, ou du bruit, ce bruit-là, ou cette émotion, ou cette qualité-là. Il y a toujours des qualités mentales. Ça n'arrive pas qu'il n'y en ait pas. Ça se peut qu'elles soient reconnues comme neutres, que ça ne ressorte pas. Mais il y a toujours quelque chose, un peu d'agitation, un peu d'intérêt pour ce qui se passe, un peu de calme, de la non-réactivité, hein, qu'on appelle aussi parfois équanimité. Alors ça, c'est peut-être un peu transparent, ça se peut qu'on ne s'en rende pas compte, mais en portant attention, en s'intéressant à ce qui se passe, on pourrait dire, ah ben tiens, mon esprit n'est pas en réactivité, là. Il n'est pas en train de vouloir que quelque chose disparaisse ou que quelque chose arrive, il n'y a pas ça. Je peux découvrir ça. Puis donc, en découvrant cet aspect-là de l'esprit, de cette texture particulière-là, peut-être que je vais découvrir que j'ai une richesse là, que souvent je ne vois pas dans ma vie. Hein? Puis je vais pouvoir me mettre à apprécier quelque chose, la non-réactivité, une accalmie. Mon Dieu, pas pressé par une opinion. Là, pas pogné dans une opinion, une préférence. Juste, tiens, c'est comme ça en ce moment. C'est quelque chose de particulier. Là. On pourrait voir là-dedans qu'il y a de la valeur là, qui n'avait pas été reconnue. Là. Parce que si on ne s'en rend pas compte, les chances qu'on cherche le trouble sont assez élevées. Bon, il ne se passe rien. Imaginez quelque chose qui pourrait mal tourner. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Hier, peut-être que votre journée a été colorée, entre autres, par les 5 empêchements. Les 5 empêchements, c'est des états mentaux qui sont difficiles à vivre sur le coussin, la chaise ou dans la vie. Puis donc, c'est ceci. L'aversion, la haine de ce qui se passe, ne pas vouloir ce qui se passe. refuser ce qui se passe, là, quand l'esprit se braque. Là. Non, pas ça. Ça, c'est difficile pour un être humain. Vouloir autre chose que ce qui se passe. Ça, c'est difficile pour un être humain. Je vais être rendu plus loin, je vais me sentir plus comme ça. C'est l'incapacité de connecter avec ce qui est là, puis de focaliser une saisie, là, une prise, là, être accroché à quelque chose d'autre qu'on voudrait qu'il y ait lieu. Ça, c'est douloureux pour un être humain. Après ça, avoir trop peu d'énergie pour rencontrer la réalité. T'sais, si vous êtes un peu de même, là, ça serait naturel qu'il y ait ça, là, genre, ah non, un autre 24 heures de cette affaire-là. T'sais. C'est un mélange d'aversion puis de peu d'énergie. Là. Ça, c'est dur pour un être humain. Puis un autre, c'est trop d'énergie. Alors, t'es assis, puis là, ça a 100 000 choses à dire, d'écrire, commenter, juger, etc. Là, c'est très, très excité dans l'esprit ou dans le corps. Là, ça va exploser. Alors, ça, c'est difficile à vivre. Puis le doute. Ça va-tu marcher? Je fais-tu bien? Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne suis pas sûr que ça a du bon sens. Ça, c'est assez douloureux pour un être humain. Alors, c'est souvent la première journée d'une retraite. C'est une attaque multiple, on pourrait dire. Ça vient de tous les bords, tu sais. Je m'endors, en me réveillant, je suis énervé. Je veux pas que ce soit ça qui se passe, je veux que ce soit d'autres choses qui se passent, puis je comprends pas ce que je fais là. Et puis tranquillement, dans la pratique, on va aller des 5 empêchements qu'on peut reconnaître. Des fois, ça peut être très bien de le nommer. Ah oui, grosse vague de doute. Alors, petite nuance, quand je parle de ces empêchements-là, le doute, par exemple, il y a une sorte de doute qui est débilitant, qui fait que tout s'arrête. C'est chou. Puis il y a une sorte de doute qui est plus de l'ordre de l'investigation, qui est comme, ah, je ne suis pas sûr si ce que Pascal dit est vrai. Laisse-moi aller voir. Hein? Voyez-vous, il y a de l'énergie dans ce doute-là. C'est un doute qui mène vers l'écoute, vers l'attention, vers la recherche. Alors, on peut faire la nuance, là, on peut discerner là, entre un et l'autre. Si on est dans un doute qui est comme tout s'arrête, on peut reconnaître ça. Peut-être avoir un peu de compassion. Ah, pas facile ça, mon amour. C'est pris sous l'emprise du doute. Hein. Et à ce moment-là, quand on devient conscient, quand on amène un peu peut-être d'humour ou un peu de bienveillance, ce qu'on entraîne, ce qu'on nourrit, c'est pas le doute. C'est pas l'état mental difficile. Ce qu'on est en train de nourrir, c'est la bienveillance, c'est la pleine conscience, c'est la compassion. Alors c'est pour ça qu'on fait ça, pour se libérer de ces états affligeants. Dans le cas du désir, on pourrait très bien avoir un désir qui soit sain dans le sens où c'est bon pour nous, c'est bon pour les autres, puis il n'y a pas la saisie, on n'est pas accroché. T'sais, ça me le prend maintenant, il faut que je sois chez nous, avec mon chat, maintenant. Mais il y a des désirs qu'on a, tiens, je veux développer quelque chose dans ma vie, je veux tendre vers quelque chose, mais on est capable d'être là où on est. Hein? Là où c'est difficile, c'est comment on veut être ailleurs, être quelqu'un d'autre, être une autre réalité que celle qui est là. Voyez-vous la nuance, là? Alors, il y a un désir, ça peut être très sain, ça donne un sens de direction, une intention, mais on est capable d'être là où on est pleinement. Donc, vous voyez, en étant assis aujourd'hui, en marchant, vous allez les voir, ça va fluctuer. On ne peut pas vraiment et absolument éviter ça. Là. Ça fait partie de l'expérience humaine. Mais on veut être sage autour de ça. On veut avoir du discernement. Alors, quand ça monte, là, OK, là, je veux que ça soit fini, la marche. Je rêve d'être dans la salle de méditation, assis sur un coussin. Alors, s'il y a ça, là, puis que là, c'est plus possible d'être présent, on peut devenir conscient. Ah, mon amour. Ah oui, là, t'es vraiment pogné, là. Toi, tu penses qu'il va y avoir satisfaction tantôt sur le coussin. Tout a prouvé le contraire. Puis tiens, je finis avec... Donc, puisque j'ai parlé des 5 empêchements et des états mentaux difficiles, nous, ce qu'on fait, donc, c'est qu'on s'aide tranquillement à ne pas être, c'est ça, sous l'emprise, asservi, assujetti à ces émotions-là. Puis on aide le transfert, le passage de ceux-ci à des qualités qui sont connues comme bénéfiques, bénéfiques pour soi et pour les autres, aidantes, libératrices, qui ont cette texture-là, qui font que la réalité devient abordable, possible, vivable, viable. Alors, tiens, je vous en lance une comme ça. Il y a plusieurs des qualités, là, j'en ai nommé plein là, depuis le début de la retraite, mais juste, je vais faire un enchaînement qu'on n'a pas entendu peut-être ici en fin de semaine. Le Bouddha disait, de la même façon que quand il pleut, la pluie qui va tomber dans la montagne va tendre à descendre, puis va joindre un ruisseau, qui va joindre une rivière, qui va tomber dans le fleuve, qui va tomber dans l'océan, de la même façon là, que c'est naturel que ça fasse ça. De la même façon, un esprit qui devient attentif, pleine conscience, un esprit qui devient attentif va naturellement devenir curieux. Va s'intéresser. Si on met l'attention sur quelque chose, à un moment donné, la curiosité va naître. Et un esprit qui est attentif naturellement devient curieux, naturellement trouve de l'énergie, naturellement devient joyeux, naturellement se calme, naturellement devient uni au lieu d'éparpillé, concentré, uni, naturellement devient équilibré, équanime, naturellement fait des découvertes sur la réalité qui sont libératrices. Vipassana, c'est ça. Alors nous, on tend vers ça aujourd'hui, humblement, toujours avec l'opportunité de recommencer à nouveau. Et donc, c'est ça l'idée. C'est qu'en mettant l'attention sur quelque chose, il y a un moment où on va devenir intéressé. Je pense qu'on a tous, j'imagine qu'on a tous vécu ça là, depuis le début de la retraite. À un moment donné, tu mets ton attention sur les sons, là, ça devient intéressant d'entendre ce son particulier-là, l'apparition d'un son, sa disparition. Quand il y a la présence mélangée avec un peu de curiosité, c'est énergisant. C'est des facteurs énergisants dans l'esprit. Étant énergisant, là, curiosité, énergie, on est dans le champ de l'enthousiasme. Ah, regardons ça. Je sais pas quoi, la respiration, le silence. Même ça pourrait être la douleur. Au lieu de avec empêchement, je veux pas ça, je veux pas de douleur. Qu'est-ce que c'est que j'appelle la douleur? J'engage un peu d'énergie. Puis là, tout à coup, c'est donc bien intéressant. Ça picote ou tournoie. Non, ça picote pas, ça tournoie pas, ça perce. Puis donc, là-dedans, il y a de l'énergie. Puis là, on s'éloigne de l'empêchement de pas assez d'énergie. Trop d'énergie, ça devient la bonne énergie, là. Puis étant attentif, intéressé, engagé avec quelque chose, on devient moins discursif, moins excité, moins énervé. Parce qu'il faut être là pour observer la chose. Comme la biologiste en nature là, doit être très attentive pour faire des liens là, avec le comportement des animaux. Il faut être là, intelligent, intéressé, mais aussi très calme. Quand on est calme, on a moins tendance à vouloir autre chose. Quand on est intéressé à vouloir autre chose, on est engagé avec ce qu'il y a là. Alors là, c'est pas peu de choses, c'est pas juste la technique de la méditation, là, c'est la sortie du trouble dont je parle. C'est qui nous habite souvent. C'est vraiment le passage là, vers la sortie de la misère. Alors nous, aujourd'hui, on a la chance d'explorer ça. Tout croche, on va tomber, flatte sa face. Une couple de fois, tu sais. Mais on reprend humblement. Puis on essaie à nouveau. On essaie-tu un peu? Alors, sans forcer, sans abandonner, puis ça peut vraiment être bien de choisir l'immobilité dans le corps, le calme dans le corps, parce que le calme dans le corps peut suggérer au cœur le calme, au mental, à la psyché le calme. Mouvement du corps va suggérer aussi le mouvement de l'esprit. Inviter une certaine fraîcheur là, dans le regard, on pourrait dire, dans l'attitude. C'est comme si on n'avait jamais été vivant avant. Comme si on découvrait pour la première fois ce que c'est que d'être. La chance de faire l'expérience de ça, là. Aux premières loges de être sensible. Respiration a lieu, puis un jour n'aura plus lieu. Mais là est le lieu. L'audition a lieu, puis un jour n'aura plus lieu. Donc il y a quelque chose de précieux qui se passe là. Il y a de la conscience. À un moment donné, il n'y en aura plus. Là, au cœur de l'humanité, la chance de voir ce que c'est que d'être un humain. Visité par des sensations, des impressions auditives, des impressions d'être olfactive, des impressions aussi qui viennent de l'intérieur, des images, des paroles, des états intérieurs. Toutes des choses, si on est attentif, qu'on va découvrir fluctuantes, une série d'apparitions puis de disparitions, de présence puis d'absence. On va découvrir l'ouïe, qui parfois est existante, puis tout à coup, oups. L'ouïe, l'expérience de l'ouïe est disparue. C'est une expérience du toucher. Puis tout à coup, ça va être l'expérience soudaine d'une pensée qui va faire disparaître tout le reste pour un moment. Quand le mental est agité, il sait que le mental est agité. Quand l'esprit est calme, il sait que l'esprit est calme. Quand l'attention est établie, elle sait que l'attention est établie. Quand le cœur est léger ou lourd, elle sait que le cœur est léger ou lourd. Au moment d'entendre la cloche, là, voyez si vous devenez habituel ou si vous gardez une certaine qualité de présence au moment où les yeux vont peut-être s'ouvrir, le corps se délier. Comme on est intéressé à ne rien faire de façon habituelle ou inconsciente. Si l'état mental est l'attente, peut-être qu'on peut devenir conscient de ça, que là, il y a l'attente de la cloche. C'est une texture particulière dans l'esprit. C'est possible qu'on note là, avec le son de la cloche quelque chose qui se relâche dans l'esprit, une tension, quelque chose qui se libère, ou au moment de bouger peut-être. Sans forcer, sans abandonner. Le Bouddha disait, en forçant, je perds des pieds, puis j'étais emporté par le courant. En abandonnant, je calais, puis j'étais emporté par les flots. Alors, sans forcer, sans abandonner. Dans la pratique, on donne une valeur, une grande valeur à la continuité. Ça veut dire que, par exemple, ce matin, là, il y a une suite de assise, marche. Je ne me rappelle pas comment l'histoire finit, là, aucune assise peut-être. Mais on pourrait voir ça comme un bloc de pratique, puis on pourrait se dire, tiens, je vais essayer d'avoir une continuité, au lieu d'être là, pas là, ce qui rend la pratique très, très difficile, parce qu'il faut la restarter à chaque fois. Ça demande un effort considérable. Alors que si on établit quelque chose, autant que faire se peut, évidemment, puis on est barouetté par nos psychés de façon, mais de se dire, tiens, je vais être assis, quand la cloche va sonner, je vais rester, demeurer présent, au moment où le corps se met debout, bouge, descend, mettre le manteau, aller jusqu'à atteindre l'endroit où je vais marcher, je vais essayer de demeurer le plus présente, conscient possible. Je vais faire la marche de la même façon, puis quand je vais entendre la cloche, je vais revenir, quoi que je fasse, si je bois, je vais le faire consciemment, juste pour voir ce qui pourrait se produire, s'il y a une sorte de continuité qui peut s'établir. Parce qu'un moment de... Savez-vous, qu'est-ce qui est la cause d'un moment de pleine conscience? Quelle est la cause principale, première, d'un moment de pleine conscience? Un moment de pleine conscience précédent. Ça veut dire que quand on est présent, on n'est pas juste présent dans ce moment-là. C'est une sorte d'investissement. On crée les conditions pour être présent plus tard, en étant présent immédiatement. Pour moi, présent, ça veut dire ressourcé, créatif. Éventuellement, c'est ce que ça veut dire, équilibré. Alors, c'est ça un peu l'idée là, ici. Donc, on investit là, en ce moment, d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a des questions sur la pratique, quelque chose à clarifier que vous avez entendu ce matin ou hier ou qui fait partie de la pratique pour vous là? Oui.
Dans l'investigation, il y a comme il y a quelque chose qui est super stimulant, mais en même temps, des fois, je trouve que ça s'arrête, tu sais. Quand est-ce que c'est plus une investigation, parce que c'est vraiment plaisant, mais...
C'est-à-dire...
Quand est-ce que ça devient comme... que ça devient comme trop...
Oui. Dans la pratique qu'on fait, l'investigation, pour le bénéfice de tout le monde, là, c'est donc une qualité mentale particulière, puis elle se déploie d'une façon particulière aussi. Alors, quand on dit investigation, en général, on pourrait penser, je réfléchis à quelque chose, d'où c'est que ça vient ce sentiment-là, etc. Dans la pratique ici, comme je pense que tu le sais un peu, l'investigation, le mot en pali, c'est Dhamma Vichaya. Dhamma, c'est phénomène, puis Vichaya, c'est investigation. Alors, là, c'est un petit D que j'utilise. Hein. Dhamma avec un grand D, c'est les enseignements ou la nature des choses. Puis avec le petit D minuscule, ça veut dire un phénomène. Alors nous, on s'intéresse à des phénomènes qui ont lieu présentement. L'investigation... Là où ça ne fonctionne plus, c'est quand on devient discursif. Je ne sais pas quelle est ton expérience, mais tu sais, quand tout à coup, il y a trop de questions ou trop de liens qui se font, puis « Ah, ça doit être ça! » L'investigation que nous, on fait, elle est plutôt silencieuse. Il va y avoir quelques mots, des fois une question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est plaisant? Puis, tous ces mots-là, qui soient les mots comme quand je nomme une émotion, « Ah, la peur! » Ça amène vers l'expérience, donc vers le silence. Ce qui répond aux questions, ce qui suit une note mentale, c'est de l'attention. C'est ça là, qui va répondre aux questions. Fait que donc, si toi, tu es assise là, puis tout à coup, il y a une émotion, tu te sens troublé, tu ne sais pas c'est quoi, peut-être tu vas dire, qu'est-ce que c'est cette émotion-là? Cet état-là, qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être qu'il y a une question, c'est de l'investigation. Mais là, après ça, on ne dit pas un mot, là, on sent. Pour que tout à coup, ça va, anxiété, tristesse, je ne sais pas quoi, t'sais. Irritation, impatience. Là, il y aurait un mot peut-être qui viendrait quand je découvre, puis là, ce mot-là m'inviterait à aller sentir c'est quoi l'impatience. Ah oui, ça c'est activé de même, ça fait ça, ou je ne sais pas ce que ça fait d'autre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de... Donc, pour moi, s'il y a deux phrases de suite, là, sujet, verbe, complément, oups! On est rendu ailleurs. Là.
Ou des images.
Ou des images, oui.
Trop d'images.
Ouais. Puis donc, s'il y a beaucoup d'images, beaucoup de paroles, pour moi, ça serait la note que je prendrais. Images, déferlement d'images. Puis là, je deviendrais conscient de ça, éveillé à ça, plutôt que fasciné par. Ça aide?
Il y a comme le sixième sens qui, dans le fond, observe plusieurs aspects. C'est quelle partie de nous qui va de « Ah, ça, mettons, ça me pique up. » Mais c'est quelle partie, c'est comme ce qui se passe. C'est peut-être mon sixième sens, mais c'est qui va dire « Ah, j'entends moi. »
Oui.
C'est quelle partie de nous qui fait ça? Puis est-ce qu'il y a une place dans le corps pour comme centrer l'attention?
Mm-hmm. Bien, ça, c'est des très bonnes questions qui, donc, en parlant d'investigation, alors ces questions-là pourraient facilement mener vers, tu sais, de la prolifération mentale, hein? Tu me suis, on pourrait penser beaucoup à ça.
Mm-hmm.
Alors que nous, ces questions-là, elles deviennent très, très riches, puis là, ça devient de l'investigation dans le sens de la psychologie bouddhiste, dans le sens de, je pose la question, puis là, j'observe, je sens. Alors, est-ce qu'il y a une place dans le corps où est localisé le « je », mettons?
Mm-hmm.
Tu sais? Ben, c'est une bonne question. Allons voir. Puis là, on va voir. Ah ben, c'est là. Ah, c'est en arrière des yeux. Je ne sais pas qui va avoir quelle réponse, tu sais? Mm-hmm. Puis à quel moment. Puis là, ah non, tiens, là, le « je » était dans le ventre, tu sais? Ou il n'est pas localisé, ou quelque chose comme ça. Puis bon, ben, pour fournir quelques éléments de réponse, dans la psychologie bouddhiste, on parle de facteurs mentaux. Alors, le discernement est un facteur mental qui parfois est là, parfois n'est pas là. C'est la capacité de reconnaître intelligemment ce qui se passe.
C'est
dans la tête. Ben, il y en a qui disent ça, là. Il y en a qui sont rendus qui disent que c'est dans le guts. Mais est-ce que c'est localisé comme ça? Est-ce que l'expérience est localisée de même? Peut-être qu'on l'a perçu comme ça, tu sais? C'est pour ça que moi, je suggère des fois, ben, pas juste moi, mais on suggère des fois que si on pense que notre intelligence est ici, que dans la pratique, on peut peut-être décider de faire descendre l'intelligence là, puis faire l'expérience du monde à partir d'ici, là, si vous faisiez la marche avec votre intelligence plutôt qu'ici, ici, peut-être même là, ou peut-être même là, dans les jambes, tu sais. Puis on va peut-être voir qu'en fait, les perceptions sont malléables, hein, sont changeantes, comment ça apparaît. Mais, oui, donc j'essaie de fournir quelques éléments, là. Puis oui, tu as raison que c'est le sixième sens, donc c'est la conscience qui connaît les sensations. Hein. Alors, il y a, on les sépare là, en six, mais il y a, c'est des vases communicants. Là. T'sais, j'avais un prof qui disait, puis ça m'a beaucoup inspiré dans ma pratique, qui disait souvent, comment il, en français, ça donnerait quelque chose comme le corps... Le corps a une forme, le corps a la forme, mais il n'y a pas la connaissance. L'esprit connaît, mais il n'y a pas de forme. Alors, puis les deux ensemble, ça fait qu'on peut ressentir le froid, parce qu'un corps sans conscience, inconscient ou cadavérique, un cadavre, voilà. Pourrait pas. Alors, ça prend. Puis là, on est intéressé par ça, ce mix-là. Alors, il y a la conscience. Ce qu'on appelle, j'appelle de façon synonyme là, esprit, mental, cœur. Moi, je mets ça tout dans le même paquet. Là. Oui, je passe d'un à l'autre parce que ça, peut-être, ça résonne différemment pour certains, etc. Mais d'ailleurs, souvent, on pense que la fonction primaire du mental, de cette affaire-là, c'est de penser. Puis ici, on va peut-être découvrir qu'en fait, la nature première de cette affaire-là, c'est de connaître, de faire l'expérience. Expérience de son, de froid, de chaud, de picotement, puis d'émotion, de pensée, qui sont passagères, elles. T'sais. Alors, c'est ça, l'idée, là, ça serait que ces belles questions-là ne mènent pas vers le doute, mais écoute donc, je ne comprends rien, mais mènent vers l'investigation. Alors, on peut rediriger, hein, dire, OK, tu as des questions, ça t'angoisse un peu, tu n'es pas sûr, allons voir. Essayons d'utiliser les outils proposés. Là. OK. Merci. OK. Puis si ça semble compliqué, puis investigation, puis ceci, puis cela, revenez à quelque chose d'absolument immédiat et simple, les pas, la respiration, puis le reste, ça va tout se déployer naturellement. Ça va apparaître, tu sais, dans le calme. Le calme est un élément, c'est l'élément qui balance, là, qui équilibre l'investigation. Alors, si vous êtes très curieux, qu'est-ce que c'est ça, tout ça, appliquer énormément de calme. C'est ce qui va aider à faire des découvertes. OK, maintenant, il y a un groupe de rencontres, puis la marche méditative, sans abandonner, sans forcer. Merci.